Mondial Sport sur RFI. Christophe Jousset.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport. Le foot à la une. Dans un instant, nous sommes en ligne avec Philippe Auclair pour revenir notamment sur le nul de partout entre Arsenal et Tottenham. Ensuite, Pierre Chaperon nous fera le portrait de João Félix, le jeune et brillant portugais recruté par l'Atlético de Madrid. Félix auteur justement aujourd'hui de son premier but avec son nouveau club. 9 joueurs en cours de naturalisation en Chine. Ils sont susceptibles de jouer en équipe nationale pour aider les Chinois à se qualifier pour le Mondial 2022. Stéphane Lagarde nous expliquera cette rupture dans la méthode chinoise. À la Coupe du Monde de basket, en Chine précisément, le Sénégal s'incline d'entrée devant la Lituanie. Réaction à suivre dans quelques minutes. Au sommaire encore, de bons mondiaux pour le judo français à Tokyo et le bilan des 12e Jeux africains avec Mustapha Beraf, le président de l'ACNOA. C'est Mondial Sport, préparé avec Valentin Vaner. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. Allez, tout de suite, l'Angleterre et Philippe Auclair qui est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous et à toutes.
Philippe, de retour de l'Emirates Stadium, un peu difficile d'ailleurs dans les transports londoniens.
Oui,
vous avez vu... vous avez vu Arsenal et Tottenham faire match nul de partout. C'est le fameux derby du nord de Londres. Et Philippe, c'était un vrai derby avec tout ce qu'il faut, de l'engagement, de la tension parfois, mais surtout du jeu.
Du jeu, de l'ambiance, des buts, des incidents, un petit peu de controverse et puis un résultat qui, au bout du compte, ne satisfait ni l'une ni l'autre équipe, et en même temps les satisfait toutes les deux. C'est assez curieux. Tottenham avait besoin de se rassurer après la défaite contre Newcastle à domicile. On a vu un bien meilleur Tottenham avec un excellent Christian Eriksen. Vous savez qu'il y a tous ces doutes autour de son avenir à Tottenham. Apparemment, il est parti pour rester. Mm-hmm. Et puis du côté d'Arsenal, le fait d'être mené 2-0 après des erreurs défensives assez grossières, hein, et de pouvoir revenir au score d'égaliser et même de menacer une victoire en seconde période, tout compte fait, c'est également du positif. Donc c'est un derby pour cela tout à fait typique. Vous savez, on dit qu'en Angleterre, enfin à Londres, c'est le résultat dont rêve la police parce que tout le monde est content. Donc les supporters d'Arsenal et de Tottenham, qui, vous le savez, ne sont pas les meilleurs des amis, se quittent en relativement bons termes. Mais également du côté des deux équipes, même si on n'a pas vu véritablement de confirmation de la forme d'Arsenal que l'on dit être un candidat pour le top 4, où on a ça n'a pas été définitif, mais en tout cas on a vu deux équipes qui ont su se réveiller, qui ont livré un excellent match pour les neutres, mais qui finalement ne les sert pas tant que cela au niveau du classement général.
Alors, petite évaluation Philippe pour cette première titularisation du trio Aubameyang, Lacazette, Pépé, qu'est-ce que ça a donné?
C'était plutôt bien, avec un Nicolas Pépé, je crois qu'un premier but lui fera beaucoup beaucoup de bien. Dans la finition, c'était pas tout à fait ça, même s'il a mis en danger Hugo Lloris à deux reprises. Il y a encore du chemin à faire pour qu'il y ait une véritable entente dans ce trio d'attaque. On voyait notamment Nicolas Pépé qui a cette tendance, qu'il avait déjà à Lille, hein, de partir de son aile pour repiquer au centre et créer des espaces. Il n'y a pas encore tout à fait l'entente qui peut exister, par exemple, entre Lacazette et Aubameyang, qui tout de suite ont trouvé un terrain d'entente. Là, ce n'est pas encore le cas, mais ça promet pour le futur, ça promet pour l'avenir. Un but de Lacazette, un but de Aubameyang, celui de Pépé, on l'attend encore, mais les premiers signes sont là que Arsenal peut bien fonctionner dans ce 4-3-3 avec ce trio Laka, Auba, Pépé.
Alors, retour sur ce qui s'est passé aussi ce samedi, Liverpool est allé battre Burnley 3-0. On a noté, c'est ce qu'on a vu en fin de match, le mouvement d'humeur de Sadio Mané au moment de son remplacement. Le Sénégalais est visiblement très en colère contre Mo Salah qui venait de lui refuser, entre guillemets, une passe évidente devant le but. C'est rare de voir Sadio Mané dans cet état.
Personnellement, je ne l'ai jamais vu dans cet état-là, que ça soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Vous savez que c'est un garçon presque timide, hein, un petit peu réservé, qui sourit beaucoup, mais certainement qui ne s'énerve jamais. Mais là, il était dans tous ses états. Au début, on s'est dit c'est peut-être parce que Jürgen Klopp a décidé de le faire sortir du terrain. Pas du tout. C'était parce que Mohamed Salah l'avait ignoré, comme il avait également ignoré Roberto Firmino dans une action relativement similaire. Et on peut se poser des questions. C'est la seule chose, pas sur le fait que Sadio Mané aurait en quelque sorte fondu un fusible, on va dire, de manière polie. Ça, c'est pas un problème. Comme l'a dit Jürgen Klopp, le problème était réglé très rapidement. C'est plutôt le fait que Mohamed Salah, en ce moment, a une tendance, qui a toujours été là chez lui, mais une tendance à un certain individualisme qui n'est pas nécessairement très bien perçu par ses coéquipiers, et quelque chose qu'il va falloir qu'il s'y intéresse, dirons-nous, pendant ce break international, pour peut-être remettre les choses à l'heure, remettre la pendule à l'heure avec ses deux partenaires d'attaque qui, lui, par contre, lui servent caviar sur caviar, passe sur passe. Il faudrait peut-être qu'il rende la politesse.
Un tout petit mot sur Matip, qui confirme son statut de titulaire.
Tout à fait, alors que c'était pas gagné d'avance pour le Camerounais au départ. On sait que Joe Gomez et le joueur anglais formaient une excellente charnière centrale avec Virgil van Dijk. Mais là, Matip, de match en match, il avait gagné ce statut de titulaire l'année dernière. Il est en train de le regagner à nouveau. Mmh. Et maintenant, il ne fait plus grand doute pour personne que ce sera lui qui sera le partenaire numéro 1 de Virgil van Dijk pour Liverpool jusqu'à la fin de la saison.
Merci beaucoup, Philippe Auclair. Manchester City a battu Brighton 4-0 au classement. Liverpool est en tête avec 12 points. Manchester City, deuxième, 10 points. Et Leicester suit avec 8 points. En Espagne, l'Atlético de Madrid est en tête ce soir de la Liga. Troisième victoire en 3 journées. Et cette fois sur le Phil contre Eibar, 3-2 avec un troisième but signé du Ghanéen Partey. L'Atlético qui a cassé sa tirelire cet été, plus de 250 millions d'euros dépensés, dont environ la moitié pour le seul Joao Félix, 126 millions d'euros. Surprenant pour un jeune de 19 ans, pas forcément. Celui qui ne compte qu'une sélection avec le Portugal est présenté comme un prodige, au même titre que Kylian Mbappé, par exemple. Portrait de Joao Félix, celui qui enchante déjà le supporter de l'Atlético et qui a marqué aujourd'hui d'ailleurs, avec notre correspondant à Madrid, Pierre Chaperon.
Son but n'a fait qu'augmenter sa cote de popularité. En ouvrant son compteur en match officiel ce dimanche contre Eibar, Jean-Félix, 20 ans en novembre prochain, a fait chavirer de bonheur son nouveau public. Résultat, ils sont déjà nombreux à porter le maillot de l'Atlético floqué au nom du portugais. C'est le cas de Edu, la trentaine, déjà sous le charme, même s'il émet quelques réserves.
Pour le moment, tout pinta bien.
Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Nous allons voir au fil de la saison comment cela évolue. Il lui manque un peu de force, il doit encore se renforcer, être robuste, prendre du muscle. Et avec Simeone, ça c'est essentiel. Ses points forts, c'est qu'il va vite, il y a aussi les dribbles qu'il fait, et le fait qu'il regarde toujours devant, pas comme Griezmann qui arrêtait le ballon là, freinait le jeu. Ce gamin regarde toujours en direction de la cage adverse.
Un charme qui opère depuis la pré-saison, et notamment la victoire 7-3 de l'Atlético contre le Real, où l'ancien joueur du Benfica Lisbonne y est allé de son but et a délivré deux passes décisives. Rapide, technique, agile et un peu roublard, le nouveau numéro 7 de l'Atlético a tout pour séduire. Il faut dire que son arrivée ne s'est pas faite sans pression. Pour preuve, le clip vidéo diffusé pour annoncer son arrivée. Musique classique sur fond d'images du musée du Prado à Madrid. Là, les peintures de Velázquez, celles de Le Greco ou encore Goya. Dans cette vidéo d'une minute trente, on voit un jeune homme Jean-Félix, look d'étudiante dans cette pinacothèque qui fête ses 200 ans. Et lors de la présentation devant la presse, le président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ne tarissait pas d'éloges.
Hay personas con virtudes innatas.
Il y a des personnes qui déploient leur talent avec vertu et de manière innée dans la première étape de leur vie. Écrivains, peintres, sculpteurs et sportifs, jusqu'à devenir des génies ou des légendes dans leur discipline. Le mot qui définit le mieux Joao Félix, c'est le talent.
Pur talent, mine d'or, petit génie, les qualificatifs concernant Jean-Félix ne manquent pas. Annoncé du côté de l'Angleterre, le Portugais a finalement pris un chemin un peu plus court. L'Espagne, le Real, le Barça, non. L'Atlético de Madrid a remporté la mise, grâce notamment à ses bonnes relations avec l'agent du joueur, un certain Jorge Mendes. Un joueur déjà apprécié par ses coéquipiers, en premier lieu le gardien de but et vice-capitaine Jan Oblak.
C'est sûr que c'est quelqu'un qui a du talent, un grand talent. Et avec ce talent, il peut devenir un super joueur. Je suis sûr que c'est le bon endroit pour lui. Il va beaucoup progresser avec notre entraîneur et il apprendra beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas avant. Aucun doute pour moi que c'est un prodige et que s'il continue comme ça, s'il s'entraîne dur et qu'il continue de jouer comme il l'a fait, il va devenir un très grand joueur.
L'histoire d'amour entre l'Atlético et Jean-Félix est en marche. Ce transfert inattendu fait déjà rêver les supporters et le club. Tous attendent que ce jeune espoir devienne un grand en Espagne, au même titre qu'un autre numéro 7 portugais, un certain Cristiano Ronaldo. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et ce soir, toujours dans la Liga, un doublé de Gareth Bale a permis au Real Madrid d'obtenir le nul de partout sur la pelouse de Villarreal. La quatrième journée de Ligue 1, changement de leader, c'est le PSG qui prend la tête car Rennes a été battu aujourd'hui chez lui par Nice, 2-1. On a maintenant 4 équipes à égalité avec 9 points chacune, Paris, Rennes, Nice et Angers. La journée s'est achevée tout à l'heure sur la victoire de Marseille sur Saint-Étienne au Vélodrome, 1-0, but de la recrue argentine, Benedetto, deuxième victoire consécutive pour l'OM. Toujours aucune victoire en revanche pour Monaco, rejoint dans les dernières minutes à Strasbourg, 2-2, les Monégasques sont avant-dernier du classement. Enfin en Italie, l'Inter Milan est allé s'imposer aujourd'hui 2-1 à Cagliari et l'Inter rejoint la Juventus de Turin en tête du championnat, les deux équipes étant les seules avec le Torino à compter 6 points à l'issue de cette deuxième journée. À noter le nul dans le derby romain, 1-1 entre la Lazio et la Roma.
Mondial Sport sur RFI.
Nous voulons aller au Qatar. C'est le cri du cœur du nouveau président de la Fédération chinoise de football, dont la priorité est de participer à la prochaine Coupe du Monde. Et pour ça, eh bien, la Chine est même prête à naturaliser des joueurs étrangers. En ligne avec nous, notre envoyé spécial permanent à Pékin, Stéphane Lagarde. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Christophe.
Il y a donc eu, il y a quelques jours, la convocation d'Elkeson en équipe nationale. L'attaquant de Canton du club de Guangzhou Evergrande est brésilien de naissance. Il est le premier joueur sans origine chinoise à pouvoir fouler une pelouse avec le maillot de l'équipe de Chine. D'abord Stéphane, dites-nous ce que dit exactement le patron de la fédération.
Mais il fait des déclarations étonnantes, cet homme. Il dit que la porte est ouverte aux naturalisations alors que jusqu'à présent, eh bien, il s'y était frontalement opposé, à peine nommé donc à la tête du football chinois. Chen Shuyun dit qu'il va ouvrir cette porte. Ce n'est pas, en tout cas, complètement ouvert, puisque dans cette interview accordée à l'agence chinoise, donc l'agence officielle chinoise, l'ancien entraîneur commence par rappeler son désaccord, Christophe, avec cette idée d'introduire des joueurs naturalisés sans héritage chinois, précise-t-il. C'est important, on va y revenir, hein, sur cette notion d'héritage chinois. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, en tant que président de la Fédération chinoise de football, je le cite toujours, Monsieur Chen, je dois réfléchir à la situation actuelle, dit-il. Et il est bien obligé de réfléchir, en tout cas de reconnaître, Monsieur Chen, que sur sa feuille de match, il n'a pas encore les joueurs pour se qualifier pour le Qatar. Donc la Chine pourrait au final aligner jusqu'à 9 joueurs, on dit, nés à l'étranger pour tenter de se qualifier, sachant que c'est une des conditions posées aussi par le maestro Marcelo Lippi avant de remplir l'entraîneur italien de l'équipe de Chine a besoin de ses talents étrangers, Christophe.
Pour la Chine, c'est quand même un sacré changement de stratégie, manifestement. Est-ce que ça vous paraît définitif ?
Alors je ne sais pas si on peut parler de stratégie, de philosophie ou même d'idéologie, c'est en tout cas une rupture, c'est vrai, avec le discours officiel. Je vous ai parlé de cette notion d'héritage chinois. Concrètement, ça veut dire, Christophe, que si vous n'avez pas les yeux bridés, c'est tout simplement impossible de porter le maillot national aujourd'hui. Beaucoup de joueurs africains en savent quelque chose ici. Pour devenir chinois, il fallait jusqu'à maintenant impérativement avoir un parent ou un grand-parent chinois. C'est le cas de John Hu Saiter, par exemple, alias Hong Yong, pour les supporters du Beijing Won. Le joueur norvégien a été le premier à être naturalisé en février dernier. Sa maman est originaire de la province du Henan, dans le centre de la Chine. C'est le cas aussi de son coéquipier Nico Yenaris, le Britannique, ancien joueur d'Arsenal, a lui aussi pu être naturalisé. C'était juste avant l'été parce que, eh bien, il a aussi une maman chinoise. On a encore, par exemple, l'anglais Thias Browning du Guangzhou Evergrande, qui lui aussi pourrait obtenir la nationalité chinoise, son grand-père maternel étant lui-même chinois, Christophe. Voilà pour vous dire que, eh bien, le cas Elkeson, dont vous parliez en introduction, ouvre une brèche. D'autres naturalisations de joueurs sans origine chinoise devraient suivre pour remporter, vous l'avez compris, cet objectif Qatar 2022. C'est important, ça fera 20 ans hein, sans qualification pour l'équipe nationale. Il faut donc mettre les moyens, mais c'est un objectif de court terme, un objectif qui doit rester limité en nombre, précise encore le nouvel homme fort de la Fédération de football en Chine.
Et comment réagissent les supporters chinois par rapport à ces naturalisations ?
Alors, il y en a qui pensent que ça peut aider Lippi sur la voie de la qualification. Il y a aussi une partie du public, une grande partie d'ailleurs, qui voit cela d'un mauvais œil. On peut le lire hein, sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'il y a un côté presque tabou dans cette histoire. J'étais cette semaine, par exemple, à une conférence de presse du Guoan Xinobo, donc le club de Pékin. J'ai voulu poser une question sur la professionnalisation du championnat chinois et le fait que ça pourrait attirer davantage de joueurs internationaux et pourquoi pas des joueurs qui voudraient être naturalisés. Mais on m'a dit que cette question était sensible encore aujourd'hui, sans même parler de l'équipe nationale, Christophe. Les clubs ont aujourd'hui droit à 3 joueurs étrangers sur leur feuille de match et l'Association nationale de football en Chine veille au grain pour que, je sais pas comment dire, mais enfin que ça ne se mondialise pas trop vite hein, quand même cette histoire de football. En mars dernier, cette même association nationale du football chinois a donc demandé à ce que les joueurs naturalisés suivent le même traitement que leurs camarades chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une éducation patriotique qui leur donne une bonne connaissance du socialisme à la chinoise et évidemment quelques rudiments de mandarin, hein, ça va mieux pour jouer ici. Leur club étant chargé de faire un rapport tous les mois hein, quand même sur leur éducation patriotique. Donc il faut vraiment le vouloir hein, pour jouer dans la Super League chinoise. Les petits ponts, gagner des dribbles, des duels, ça ne suffit pas.
Merci Stéphane Lagarde. Objectif pour la Chine, donc se qualifier pour le Mondial 2022, mais aussi un jour ou l'autre, organiser une Coupe du Monde de foot. La Chine encore, la Chine qui accueille en ce moment la Coupe du Monde de basket. Bon début pour les États-Unis ce dimanche, vainqueur des Tchèques 88-67, ainsi que pour l'équipe de France, une victoire sur l'Allemagne 78-74. Les Allemands sont bien revenus dans le dernier quart-temps, mais ils ont été plombés par une mauvaise entame. L'écart est monté jusqu'à 24 points. Bonsoir Eric Chourin.
Bonsoir Christophe.
Ce mondial de basket démarre bien mal pour les équipes africaines. Après l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Tunisie hier, le Sénégal a lui aussi perdu son premier match face à la Lituanie aujourd'hui.
Ouais, une défaite qui a tourné à l'humiliation pour les Sénégalais, dominés de la tête et des épaules par les Lituaniens. Score final 101-47 plus 54, le plus gros écart entre deux équipes depuis le début de la compétition. Une seule statistique pour illustrer le manque d'adresse des Sénégalais, leur 4% de réussite à 3 points, une tentative sur 23 contre 37% pour les Lituaniens. De quoi donner raison à ceux qui prédisaient la catastrophe après la non-reconduction d'Abdou Diaye au poste de sélection. Il y a à peine un mois, Adidas remplacé par Mustapha Gueye dans le rôle de pompier de service. Adidas absent, tout comme la plupart des pointures du basket sénégalais. Gorgui Dieng, Taco Fall ou Youssoupha Fall. Quant à ceux qui étaient présents sur le parquet, ils ont vite compris qu'ils allaient souffrir. Le pivot Amadou Ndiaye.
On a eu un très mauvais commencement de match. Nous avons eu des problèmes en défense et on s'est battu quoi. J'ai vu, je ne pense qu'au positif en ce moment. Et c'est que j'ai vu que notre équipe est restée ensemble. Ça te donne un peu l'image de notre préparation. On n'a pas eu assez de temps pour faire ce qu'on avait à faire, mais ce n'est pas au moment d'avoir une excuse. Le tournoi a commencé maintenant. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se battre jusqu'au bout. De la première seconde à la dernière seconde, on ne peut pas s'arrêter. Et je pense que j'ai vu ça durant la deuxième mi-temps. Durant la première, quand on a commencé, je pouvais voir les nerfs des gens. Les choses n'étaient pas comme on les voulait, comme même on s'est préparé. Et pour quiconque qui soit ici, si on est ici, on est dans les meilleures équipes du monde. Alors ça veut dire qu'on peut se battre et on va continuer à se battre et se préparer pour le prochain match parce qu'on n'a rien à craindre et on n'a peur de personne.
Propos recueillis par Babacar Fall. Le prochain match du Sénégal, Christophe, c'est mardi face à l'Australie.
Et pour les autres équipes africaines, le deuxième match a lieu ce lundi. L'Angola face à l'Italie, le Nigeria contre l'Argentine, la Tunisie opposée à l'Iran et la Côte d'Ivoire qui rencontre le Venezuela.
Ouais, des Ivoiriens qui ont perdu leur premier match, mais en offrant une belle résistance aux Chinois à la maison. Ils sont quand même 1 milliard. De quoi leur donner des raisons d'espérer passer ce premier tour. Le Venezuela et la Pologne n'étant pas imbattables. C'est ce que pense en tout cas l'expérimenté meneur de jeu des éléphants. Souleymane Diabaté, Solo, c'est son petit nom qui se rappelle la joie qu'il a ressentie quand la Côte d'Ivoire a arraché cette qualification au Mondial 9 ans après sa dernière participation. C'était au détriment du Cameroun lors d'un dernier tournoi qualificatif qui se déroulait à la maison à Abidjan. Il l'a confié à Nicolas Bamba depuis la Chine juste avant le début de la compétition.
Jouer en Côte d'Ivoire devant le public, c'était déjà une motivation supplémentaire. En 2013, on avait organisé la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire qui était aussi synonyme de qualification pour le Mondial, mais nous avions raté le coche à ce moment-là. Donc on avait à cœur de se rattraper devant notre public, même si on savait que c'était dur en février. On a tout donné, on a préparé pendant longtemps et le public nous a vraiment, vraiment soutenus. On est doublement satisfaits.
C'était un moment très fort dans votre carrière pour vous?
Ah oui, c'était très, très fort. Un des meilleurs moments. Je pense que réaliser une telle performance en Côte d'Ivoire devant son public, devant sa famille, devant ses amis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc voilà, pour moi, c'est un des meilleurs moments de ma carrière en tout cas.
Alors la Côte d'Ivoire de retour en Coupe du Monde, 9 ans après, 2010, vous étiez déjà là en Turquie à l'époque, avec toute l'expérience accumulée depuis. Comment vous vous sentez par rapport à ce nouveau rendez-vous mondial?
Je me sens bien, très excité. Je pense que tout ce qui se passe en Chine est toujours grandiose. Et par rapport à 2010, je me sens mieux physiquement et mentalement, et avec l'expérience aussi. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'on a une meilleure équipe.
Alors vous êtes dans le groupe A cette année, avec la Chine, donc on en a parlé, le Venezuela et la Pologne. Oui. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire
joueur peut viser dans ce groupe?
Objectivement et aussi pour être réaliste, je pense que on a un des groupes les plus abordables de la compétition. Clairement, le but, c'est d'aller au deuxième tour. On est outsider en ce moment. C'est une position qui nous va bien. On est considéré comme le petit poussé de la poule. Très bien. On donnera tout pour aller au deuxième tour. Il y a vraiment la place de le faire.
Donc la Côte d'Ivoire, petit poussé, mais petit poussé ambitieux quand même, visiblement.
Ah oui, petit poussé ambitieux. Je pense que si on était tombé sur la poule de la Serbie ou d'autres grandes nations comme ça, je pense qu'on aurait été moins... ambitieux. Mais là, la Pologne, le Venezuela, on a nos chances.
Et est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots des forces du groupe ivoirien?
On a une équipe qui s'entend très bien. On est comme une petite famille. Et donc, on se soutient les uns les autres. En dehors du terrain et sur le terrain, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fera notre force. Et on a une équipe aussi avec un bon mélange de jeunes joueurs et de joueurs plus expérimentés. Donc, la fougue des jeunes et l'expérience des anciens, je pense que ça donnera un bon mélange.
Votre préparation s'est bien passée?
La préparation, au début, c'était très, très, très compliqué. Au fil du temps, tout s'est mis en place. On a fait des matchs amicaux qui étaient vraiment des matchs de haut niveau. On a joué contre l'Italie, on a joué contre l'Espagne, qui sont des matchs de référence pour nous. Ça nous a permis de savoir où on en est par rapport à des grandes nations. Je pense qu'on est très, très, très loin. Mais voilà, ça nous a aussi fait progresser, nous rendre compte du travail qu'on doit effectuer pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc, la préparation pour moi, elle était peut-être un peu longue, mais bien.
Souleymane Diabaté avec Nicolas Bamba, Venezuela, Côte d'Ivoire, c'est demain matin à 8h temps universel.
Voilà pour le basket, c'est fini. En revanche, pour les championnats du monde de judo à Tokyo, ce dimanche, le Japon a remporté l'épreuve par équipe mixte en battant en finale la France. Le Japon devant la France, c'était aussi la hiérarchie à l'issue des épreuves individuelles. Sans Teddy Riner, la France y a obtenu son meilleur bilan depuis les mondiaux 2011, avec un total de 5 médailles, dont 3 en or, des titres 100% féminins. Madeleine Malonga, Marie-Ève Gaillet, dans le signage de l'inévitable Clarisse Agbenienou, qui a remporté son 4e titre mondial du jamais vu pour une Française. Nous avons joint au Japon l'entraîneur de l'équipe de France féminine, Larbi Ben Boudaoud, qui nous parle de la performance d'ensemble des judokates et d'abord du record de sa protégée d'origine togolaise.
Par rapport à ce record, on n'a jamais particulièrement posé sur la table. Aujourd'hui, elle a gagné 4 fois. Et je peux vous garantir que si elle peut gagner une 5e fois, elle gagnera la 5e fois, ainsi de suite. Voilà, maintenant, il manque plus que le titre olympique. Comme c'est une fille qui est sérieuse, qui est très professionnelle, très engagée et qui, en même temps, dans la dureté, prend beaucoup de plaisir et c'est aussi pour ça qu'elle réussit. Parce que elle va aller se mettre dans le rouge. Elle aime ça, battre ses adversaires et elle est au bout de chaque compète. Et pour ça, il faut passer dans le rouge et c'est sûr que si dans cette difficulté, il n'y a pas un petit peu de notion de plaisir, je pense que c'est compliqué d'y arriver. Donc c'est un peu paradoxal, mais oui, dans la difficulté, elle prend du plaisir. C'est ce qui fait aussi qu'elle est performante.
On remarque aussi qu'il y a 2 de ces 3 titres mondiaux qui ont été gagnés contre des adversaires japonaises en finale, au Japon donc. Et quand on sait ce que le judo représente là-bas, ça donne une valeur très spéciale à ces médailles d'or, non?
Effectivement. Déjà, le Japon, c'est la meilleure nation du judo. Et aller les battre chez eux, c'est un bel exploit. Après, c'est de bonne augure à un an des Jeux. Mais surtout ne pas s'endormir sur ses lauriers, quoi. Les Japonais, chez eux, là, ils ont dû certainement être piqués dans leur orgueil. Donc, on va faire attention à leur réaction.
Une dernière évocation à présent des Jeux africains 2019 au Maroc. Ils se sont refermés hier à Rabat, Eric Chourin, pour en parler. Le président de l'ACNOA, l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, Mustapha Beraf.
Oui, l'Algérien Mustapha Beraf, élu à la tête de l'organisation il y a 9 mois et désormais membre du CIO. Il sera notamment chargé de superviser l'attribution des bourses dites de solidarité olympique. Ces contributions précieuses pour les athlètes disposant de peu de ressources pour financer leur préparation. Notre envoyé spécial à Rabat, Christophe Diramzian, l'a rencontré hier pour un rapide bilan de la quinzaine de compétitions. Le triomphe de l'Égypte, les vedettes du continent presque toutes là. Mais d'abord, ce triste constat quand même, ces Jeux n'ont pas suscité d'engouement populaire. La médiatisation a été trop faible. Mustapha Beraf le reconnaît, mais il préfère mettre en avant avec Christophe Diramzian une large diffusion télé à travers notamment la chaîne olympique.
194 pays ont suivi les Jeux africains. Et ce qui est tout aussi important de dire, c'est qu'il y a eu 384 millions de foyers où les Jeux africains se sont installés. Je peux dire aussi qu'au plan de la signalétique et de l'information, il y a eu quand même une bonne campagne qui a été faite. Maintenant, il est évident qu'en 6 mois, c'est difficile de communiquer sur un événement. Nous avons sollicité beaucoup de multinationales qui évoluent et qui gagnent pratiquement leur vie en Afrique. Mais comme les budgets sont déjà arrêtés, nous n'avons pas pu réellement faire des actions de marketing positives. Mais pour nous, la priorité pour ces jeux, c'était plus de créer ce produit pour toutes les personnes qui veulent avoir de la visibilité sur leurs activités. Donc là, je pense que pour le Ghana, ça sera beaucoup plus intéressant sur tous les plans.
Les Jeux africains sont censés être le grand rendez-vous de l'élite continentale du sport. Ça a été en partie le cas puisqu'on a vu pas mal de sportifs de niveau mondial être présents et y faire des performances. Pour autant, ils ne sont pas encore tous là. Ça veut dire qu'il manque encore un tout petit peu d'attractivité.
Oui, il manque un peu d'attractivité. Il manque aussi une campagne de sensibilisation. Il y a les conséquences du passé aussi. Les Jeux étaient devenus vraiment secondaires. Ce n'est que maintenant, avec ce partenariat, que nous retrouvons une autre dimension. Maintenant, la médaille aux Jeux africains a eu toute son importance et je pense qu'elle aura encore plus d'importance dans les prochaines années.
Quand on regarde le tableau des médailles, c'est pas compliqué, on voit que l'Égypte écrase tout. Présente quasiment dans toutes les disciplines en termes de médailles, comment vous expliquez ça? Et aussi le fait que l'Afrique francophone reste malgré tout encore à la traîne.
L'Égypte est un grand pays du sport. Et ils ont une organisation spécifique pour le sport. Tous les athlètes sont en préparation toute l'année, associés à des programmes d'éducation et dans les universités qui sont appropriés par rapport à leur plan de préparation. Et je pense que c'est ce qui devrait être fait dans un peu tous les pays africains. Mais cela est extrêmement difficile. Dans tous les pays francophones, il y a cette séparation entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Éducation et le ministère des Universités. On est pratiquement constamment en train de signer des conventions, des accords de partenariat, mais il n'y a aucune disposition qui permet de relever que les choses sur le terrain sont en train de s'accélérer. Vous avez un athlète de haut niveau qui n'a pas les facilités au niveau de l'université ou au niveau du lycée, qui ne peut réaliser son volume d'entraînement. Et cela, donc, retarde de manière très importante ces athlètes.
Vous êtes maintenant membre du CIO. Est-ce que vous allez être, en quelque sorte, le porte-voix de l'Afrique?
J'ai une prérogative de faire des propositions et j'ai une parfaite entente avec le président du CIO, M. Thomas Bach. Il y a une confiance réciproque qui est totale et absolue. Il comprend très bien les problèmes de l'Afrique. Je vais vous le dire en exclusivité, il prévoit au mois de novembre de faire une tournée africaine qui va faire 5 pays où il y a de nouveaux membres du CIO, le Sénégal, le Cap-Vert, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria où nous devrons inaugurer notre nouveau siège à la mi-novembre.
Vous êtes membre de la commission de la solidarité olympique, c'est un poste clé.
Oui, à ce titre, j'ai quand même la prérogative de défendre le continent sur les répartitions budgétaires. Il y a eu des mesures supplémentaires qui ont été initiées par l'ACNOA, et en particulier pour Tokyo 2020. Nous avons dégagé une somme importante d'argent, mis en place une commission qui a supervisé toutes les propositions émanant des fédérations et qui stipulait que les athlètes proposés devaient faire partie du top 10 dans le monde. Et on a actuellement donc un groupe de, je crois, 63 athlètes qui est financé directement par l'ACNOA. Mais il y a aussi les questions de qualité. Les athlètes européens, américains se retrouvent dans des conditions plus intéressantes pour affronter les grands défis. C'est pour cela un peu que parfois, quand on a de grands athlètes, on les envoie dans des centres spécialisés en Europe, aux États-Unis. J'espère que d'ici quelques temps, on aura suffisamment de centres établis en Afrique pour permettre de préparer nos gens directement.
Le président de l'ACNOA, Moustapha Beraf, au micro de Christophe Diremzian. C'est la fin de Mondial Sport. Merci à Valentin Vaner et à Laurent Philippot. N'oubliez pas Radio Foot, demain, une émission qui sera présentée par Hugo Moissonnier.